Allez, bonjour à tous et bienvenue donc sur les ondes de Radio Onden 90.9 FM et Radio Dio 89.5 FM pour un nouveau numéro de Parole de Citoyens Radio Citoyenne, un projet porté par Radio Onden, mené en partenariat avec Radio Dio, donc les deux radios associatives en Loire-Sud, et c'est soutenu au titre de la politique de la ville. Alors aujourd'hui, nous sommes le samedi 17 juin et nous avons donc installé notre studio au collège Marc Seguin dans le quartier de Montréno à Saint-Étienne pour une heure directe. Et pourquoi ici ? Parce qu'aujourd'hui, précisément, le collège Marc Seguin fête ses 50 ans. Alors toute la journée, ici, ça sera la fête pour célébrer ce demi-siècle, une occasion aussi de rassembler les générations qui ont foulé la même cour, qui ont passé plus ou moins 4 ans dans les mêmes salles et qui vont se retrouver et échanger toute la journée. Nous vous proposons dans cette émission Parole de Citoyens Radio Citoyenne de découvrir ou redécouvrir le collège Marc Seguin avec divers points de vue éducatifs, institutionnels et ceux des élèves aussi, ceux d'aujourd'hui et ceux d'hier. Et c'est pour ça que nous allons débuter avec quelques-uns d'entre eux qui sont revenus ici, qui reviennent dans leur collège. Ils sont autour de la table. On a même une parent d'élève, parce que aussi c'est important que les parents accompagnent. Jordi, Kamel, Nicolas, nous avons Michel aussi, Akima. Alors prenez des micros, on se les fera passer. Et peut-être première question, revenir ici. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de se retrouver dans cette cour qui a un peu changé, qui est aménagée d'une manière différente et vous vous retrouvez. On a vu Akima, on reconnaît des vieilles connaissances. Alors, voilà, qu'est-ce que ça vous fait chacun là de venir ici, Jordi par exemple ?
Alors, voilà, bonjour aux auditeurs. Donc moi, ben, je suis assez fébrile là, parce qu'à vrai dire, ça me fait une émotion assez forte. Ça fait très longtemps que je n'avais pas mis les pieds ici. Et du coup, voilà, on arrive ici, on redécouvre un peu les escaliers qu'on a montés un nombre incalculable de fois. Le préau aussi, qui nous paraissait immense et qu'on le voit tout petit aujourd'hui. Voilà, voilà. Alors, beaucoup d'émotions quand même aujourd'hui, ce matin, là, en redécouvrant ce collège où on a passé. Moi, j'ai passé 4 ans ici. Les autres, je ne sais pas.
Alors, c'est quand même un événement. On l'a vu hein, sur les réseaux sociaux. Vous avez été actif aussi pour motiver les uns et les autres à venir. Kamel, vous étiez aussi assez moteur dans cette rencontre-là aujourd'hui.
Alors, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors, moteur, en tout cas enthousiaste. Enthousiaste, j'habite à Paris depuis 30 ans. Et quand on s'exile, comme se sont autrefois exilés nos parents, on part avec comme bagage les lieux, les encres de notre enfance. Et le collège Marc Seguin est pour moi et pour beaucoup d'entre nous une de ces encres-là. Et c'est très, très émouvant de revenir ici. Les premiers pas avec ces rayons du soleil qui nous accompagnent sous ce préau qui a abrité tellement de nos rêves, de nos espérances et de nos moments de l'adolescence. Et donc, une très très grande émotion, d'autant plus que beaucoup vont revenir aujourd'hui, beaucoup du quartier, certains sont venus de loin, il y a Serge qui est venu de Paris, il y a plein de gens qui reviennent parce que pour nous c'est une visite à un ami, on célèbre les 50 ans d'un ami qui nous a accompagnés pendant 3 ou 4 ans, voilà, et très 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 heureux. Ça, je pense que l'organisation, ce qu'on peut en voir d'ores et déjà, laisse à penser qu'on va passer une très très belle journée ici. En tout cas, comme Jordi, très fébrile pour l'instant.
Alors, on va donner la parole à Nicolas et à Kima. Vous aussi, là, est-ce que c'est le même regard que vous portez sur ce collège-là et sur cet événement un peu et se retrouver. Alors, en plus, c'est encore plus bizarre, c'est qu'on se retrouve autour d'une émission de radio en direct.
Oui, bonjour. Effectivement, beaucoup d'émotions quand même de revoir tout ça. Alors même si moi je suis pas parti très très loin, je reviens pour des raisons professionnelles sur le collège. Voilà, j'ai été pendant 4 ans au collège ici. Oui, plein d'émotions. Puis aussi des rencontres aussi, de revoir des anciens camarades, des anciens voisins, anciennes voisines qu'on n'était pas vu depuis un bon moment. Et de voir de voir d'où on vient et d'être heureux de revenir là où on a passé effectivement de très bons moments, très bons moments de jeunesse que j'espère que les élèves actuellement partagent la même chose que nous et vivent ce qu'on a pu vivre.
Alors, on va quand même expliquer ce qui se passe, hein, parce qu'on ne le voit pas à la radio, c'est que les anciens élèves arrivent, on se fait la bise, on se dit « Ah tiens, ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu ». Hakima, le souvenir le plus marquant de vos années collège, s'il y en a à expliquer, ce serait lequel ?
Mes meilleurs souvenirs, c'est le collège, en fait. Collège, le tremplin pour le lycée. On était une bande de potes de quartier, en fait, hein, et on ne s'est jamais quittés. Hein. Nous, on est ensemble depuis les bacs à sable, parce qu'on s'appelait comme ça. Beaucoup d'émotions. Je vois qu'il y a eu la réhabilitation du collège. Vous m'excuserez, ça c'est, c'est ma déformation professionnelle. J'en suis ravie. On n'a pas eu cette chance d'avoir des murs tagués. En tout cas, avec autant de couleurs. Et c'est chouette, en fait, de mettre de la couleur dans un collège dit sensible, dit de quartier. J'oublierai pas en tout cas que c'est ici qu'on s'est tous construits. Comme vous avez pu le dire juste maintenant, on s'est jamais quitté, notre collège nous a jamais quitté, nous a toujours habité, il a fondé toutes nos convictions, ce sont nos fondations, c'est la base. Et en fait, s'il y a un message à faire passer aujourd'hui, si on a la chance d'être avec d'autres élèves de ce collège, c'est celui-ci. C'est qu'on s'est construit ici, on avait des rêves, pas des ambitions, des rêves. On était heureux de venir franchir le portail parce qu'on était content d'être ensemble. On a eu des profs assez géniaux pour qui je garde un doux souvenir. On pourrait tous les citer. J'espère qu'on aura l'occasion d'en croiser quelques-uns, même s'il y en a certains avec qui on est resté en contact, parce que c'est aussi une occasion de leur dire merci. Finalement, ces gars de cité, finalement, aujourd'hui, c'est une reconnaissance pour leur dire aussi merci à eux. Voilà. Et je suis vraiment touchée qu'on puisse célébrer ce collège, hein, parce qu'on en dit beaucoup de choses. Moi aussi, j'ai fait comme Kamel, j'ai déménagé. Hein, je suis sur la Haute-Savoie, du côté d'Annecy. Et je suis toujours là, en fait, parce qu'on n'est jamais parti, mais vraiment. Et on est tous encore... moi, je suis ravie de revoir Nicolas Fayol. Benjamin aussi. Hein, bon anniversaire, Benjamin, en direct de la radio. Voilà, il a 50 ans. Parce que
Le collège.
Et c'est ce qui était génial, hein, c'est qu'on a tous 50 ans. Et on est content de fêter les mêmes bougies. On l'a rajeunie. Elle a 52.
Alors, il y a Michel à côté de nous, parce qu'on parle des élèves, des anciens élèves, mais la vie aussi d'un collège, c'est les relations qu'on peut avoir avec les parents et comment les parents voient cet établissement. Alors, Michel, vous êtes très investi aussi dans le quartier, c'est quelque chose qui vous a accompagné de toute votre carrière. Et puis, du regard de parents d'élèves, ça représente quoi ce collège Marc Seguin ici à Montréal?
Alors, ce collège de Moreno, il a cette particularité d'abriter, depuis le début, les enfants qui passent par les écoles de Moreno. Jordi, mon fils aîné, son frère aussi d'ailleurs, sont passés par l'école Paganini. Et ensuite, tout naturellement, ils se sont retrouvés au collège Marc Seguin. Et à l'époque... il y avait des élèves qui venaient de la Talaudière parce que la Talaudière n'avait pas de collège. Donc il y avait une certaine mixité, puisqu'il faut qu'on en parle, une certaine mixité qui faisait que ce collège était moins pointé du doigt, je pense. Et puis la Talaudière construit son collège et on retrouve à Marc Seguin tous les enfants de la colline. Voilà. Et ceux qui voulaient échapper à la carte scolaire, eh ben, ils allaient à la terrasse, ils allaient... c'était comme ça que ça se passait. Ça se passe encore aujourd'hui, hein. On le sait. Hein.
Déjà à l'époque.
Et moi, je faisais partie, j'étais investie politiquement, et je faisais partie des parents d'élèves. Il y avait un gros groupe, Fédération des conseils de parents d'élèves, qui défendait ce collège, qui le défendait vraiment, Et la cantine avait beaucoup de mal à fonctionner parce que la forte population d'enfants d'origine maghrébine essentiellement était... il y avait toujours la trouille de ce qu'on a mangé à la cantine. À l'époque, bon, c'était toujours un petit peu compliqué. Et mon fils, je crois que c'est Jordi, mon fils aîné, qui un jour m'a dit « Ouais, il n'y a que les gamins des parents FCPE qui mangent à la cantine. » Donc, c'est des choses... Et on était assez présents sur le collège. Et j'ai eu, moi, dans ma vie, un engagement politique très fort. Et j'ai été élue en 77 à la mairie de Saint-Étienne. 77-83. Dans notre équipe, on avait Jean Lédier qui est décédé et qui était directeur de la... Comment tu l'appelles ?
C'est PPN à l'époque.
Voilà, voilà. SECPA aujourd'hui. Oui, je ne sais pas comment
la
ça CPPM, s'appelle.
C'est PPM, donc la SECPA d'aujourd'hui.
Voilà, voilà. Et tous ces gens, moi, je les ai retrouvés. Jean Lédier a été élu avec moi au conseil municipal. De même que Paul Chema, qui habitait sur le quartier... et qui a aussi beaucoup fait pour le quartier, et pour les écoles, et pour le collège. Et je me souviens que pendant notre mandat, il y a eu la création des zones d'éducation prioritaire. Comme on était très investis, on s'est rendu compte que Marc Seguin ne faisait pas partie. Et on s'est battu pour que Marc Seguin devienne... collège de zone et d'éducation prioritaire.
Et on en parlera dans cette émission, parce qu'aujourd'hui, il y a encore de nouvelles désignations. Il y a notamment la cité éducative, et ça va être un sujet de notre émission, où des moyens sont mis pour accompagner les élèves, les équipes éducatives, pour créer des projets. Alors,
ce qui était bien juste une phrase, c'est que cette création de zone d'éducation prioritaire a ouvert le collège sur le quartier. C'est-à-dire qu'il y avait des rencontres avec les associations du quartier, des profs qui s'investissaient dans le quartier. Ça a permis effectivement qu'il y ait une certaine unité et que ce collège n'apparaisse pas comme simplement l'endroit où effectivement on mettait les gamins parce que c'est obligatoire, mais voilà.
Alors, ça va être le déroulé un peu de cette journée, cette émission. On va saluer Siam Labiche, deuxième adjointe de la mairie de Saint-Étienne, ancienne élève ici. Vous allez intervenir tout à l'heure aussi dans cette émission-là. Les anciens élèves, aujourd'hui, donc c'est les retrouvailles entre anciens camarades. C'est aussi Nordcol qui va débuter dans pas très longtemps, je crois. Quelle bêtise.
Alors, en fait, je voulais remercier la principale de nous avoir collés, parce que... l'heure de colle pour nous à l'époque, bon, officiellement on y passait très peu de temps, mais c'était aussi un lieu, un ciment, un endroit dans lequel on avait un temps pour nous. D'être collé, c'était aussi une bulle qui était offerte à chacun pour pouvoir faire le poids, le bilan. Bon, je sublime un peu, mais...
réfléchir face à sa table.
Voilà, on était à côté du bureau de Monsieur Perrache à l'époque, et vous rappelez... Et c'était un moment, une respiration qui nous était offerte. Ce que j'aimerais dire en complément de ce qu'a partagé Michel, c'est que nous étions tous dans des écoles, donc dans les trois Montréno, Molina, le Pac et puis Chabrier, enfin le haut de Montréno. Et le collège, c'est le premier lieu de réunion. C'est le premier lieu où on a connu des autres personnes. On le connaissait par le tissu associatif, mais ça nous donnait la possibilité de voir d'autres gens de Moreno, nos cousins en général, puisque l'immigration pour nous les Berbères, c'était vraiment des mêmes villages. Donc on était un peu tous cousins. Et ce qui est beau, c'est que cette notion de cousin a grandi. Jordi, c'est plus qu'un cousin, c'est mon frère. Benjamin, que je revois, Nicolas, qui habite au numéro 2 de ma rue. Tous les souvenirs qui reviennent d'un coup. Siem, dont je connaissais des membres de la famille. Donc le collège Marc Seguin était le premier lieu de ciment d'une identité de quartier. Et la particularité de ce quartier, c'est qu'on devait venir jusqu'ici. On regarde beaucoup d'établissements scolaires sont en cœur de quartier. Tandis que nous, il fallait faire l'effort de venir. Il fallait prendre deux bus. Et des fois, on les prenait en fraude. Mais ça ne vaut pas le dire. Et on le prenait à pied aussi. Mais ce que je veux partager par là, c'est que l'heure de colle qui nous est offerte de vivre aujourd'hui, c'est intéressant pour nous parce qu'on va pouvoir reprendre ce temps de méditer sur la chance qu'on a eue d'être ici à ce moment-là quand on est passé. Comme disait Akima tout à l'heure, ça a été fondateur de nos vies d'adultes. On avait des adultes autour de nous qui incarnaient la fonction d'enseignant, de transmetteur. On avait des équipes pédagogiques. Monsieur Fournel, paix à son âme, qui était un tyran, mais en fait, c'était pas un tyran, c'était le cadre. Et d'avoir grandi avec ce cadre-là nous a permis, en tout cas moi et quelques gens autour de moi, nous a permis de devenir les adultes qu'on est aujourd'hui, je pense.
Alors Jordi, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, on m'entend là, c'est bon, oui. Tu as raison, Kamel, dans ce que tu dis. Je reviens aussi sur ce que tu dis, maman. Finalement, nous, on venait au collège, mais on subissait un peu notre vie, en fait, parce qu'on est des gamins, on n'a pas de projet, on avait des rêves. Et nous, on arrivait ici, on faisait ce qu'on avait à faire. On ne se rendait pas compte du cadre, en fait. Mais le cadre, il était là, mine de rien. C'est les adultes qui le posaient, ce cadre-là. Ça, c'est super important. Je crois que l'époque où j'ai vécu à Moreno, moi, il y avait ça. Il y avait cette complémentarité entre le collège, entre les associations. Même la police, ils étaient là, ils discutaient avec tous ces acteurs. Ça discutait, ça réglait les problèmes à l'amiable, on va dire. Et c'était pas mal quand même.
Alors, ce collège-là, quand on le quitte, quand on poursuit ensuite sa scolarité, est-ce qu'on dit qu'on vient de Marc Seguin ou est-ce qu'on le cachait ou non
à qui marche ou pas? Il marche ou pas? Oui.
Ça marche.
Alors, jamais, au grand jamais, je n'ai renié ni qui que ce soit autour de nous d'appartenir, et je pense que c'est même une fierté de dire je viens du collège Marc Seguin, je viens de Moreno, et je vous le dis parce que effectivement j'ai poursuivi au lycée Simone Veil. Là aussi on a franchi un autre panier, une autre étape. On s'est retrouvé, c'était un choc des cultures, parce que nous on était préservés au final, hein. On descendait, nous on était à la campagne, hein. Il faut savoir qu'on parle de béton, on parle de cité. Moi j'allais chercher le lait à la ferme, hein, chez Fouillou, chez Madame Fournier, Fouvet, enfin voilà. On avait un cadre, on avait de la verdure à Moreno. Il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y avait que du béton. Et on est arrivé dans ce lycée où on a découvert l'Etra, Saint-Éan, Saint-Paul-en-Jarret. Où est-ce qu'on est? Mais vraiment. Et on a sympathisé avec des personnes qu'on revoit aujourd'hui encore et qui nous disaient, enfin moi, ça m'a marqué. Mais tu sors la nuit, tu te fais jamais attaquer. Je dis non, mais c'est mon quartier, en fait. Jamais au grand jamais. Hein.
Très rapidement, pour compléter ce que tu dis, mon choc quand je suis arrivé au lycée, lycée Nord, Simone Veil, où j'ai vécu de très belles années, mon premier cours d'anglais, je ne vais pas citer le nom de la prof, elle demandait aux gens leur nom et leur collège d'origine. Et elle avait un stylo bic rouge. Et quel que soit le nom de la personne, Marc Seguin, elle mettait un point rouge. Donc, à surveiller. Et notre identité, elle a pris aussi son sens là, je pense. Quand on a été confronté aimablement et à d'autres types de publics qui venaient de la campagne, qui venaient du centre-ville, qui venaient de la terrasse. Et nous, on venait de Moreno. Et notre différence, elle, de la plaine, ouais. Notre différence, elle a pris un sens à ce moment-là, en fait. Parce que tant qu'on était entre nous, on était dans l'œuf. Et quand on est sorti du quartier, là, il y a eu une confrontation au monde qui a commencé, qui a démarré. Pour nous, très intéressante, parce que le tissu associatif avait fait qu'on avait été déjà aguerri à ça. Mais pour beaucoup d'entre nous, ça a été un petit peu compliqué. Et ce n'est pas une question d'origine. C'est vraiment une question du quartier de provenance.
Oui. Parce qu'en fait, on est origine du quartier, on est originaire de Moreno, quoi, comme on est originaire d'un village ou je ne sais quoi. Donc c'est exactement ça le choc après derrière. On est préservé dans notre à Moreno, chez nous, et puis d'un coup, on s'ouvre sur le monde, ou le monde aussi s'ouvre à nous. Et on voit des fois, le monde aussi a du mal, effectivement, avec ces histoires de points rouges. Le monde a une vision déjà de nous, et pour nous inclure, c'est un peu compliqué. Donc l'origine, c'est Moreno, il n'y a pas autre chose par rapport à ça.
Bon. Micro, Jordi.
Non, c'était juste pour redire une chose, c'est qu'on était 15 000 habitants à Moreno à cette époque.
Alors, c'est vrai que
c'était pas un petit quartier, quoi.
Bon. Alors, c'était une ville dans la ville. On parlait des origines, hein. On va rappeler aussi ce qui se passe sur le quartier avec l'association Numédia qui avait sorti L'empreinte d'un quartier, un documentaire, un film autour de la ville de Moreno. Et puis, sur nos ondes respectives, sur Radio Ondaine et Radio Audio, on relate régulièrement des initiatives qui se déroulent sur le quartier. Alors, les anciens élèves, apparemment, vous êtes attendus en heure de colle. Donc on va vous libérer et puis on va parler un peu de ce collège-là, de ses spécificités. On va parler de cette cité éducative. Alors nous avons autour de la table Rémi Seux, délégué du préfet. Nous avons Karine Ogunchi qui est principale de ce collège-là et donc Siam Labiche aussi pour la ville de Saint-Étienne. On va recevoir aussi des professeurs parce qu'on va présenter ce qu'est ce collège Marc Seguin.
Pourquoi on y arrive? Alors souvent souvent on y arrive un petit peu par hasard en jeune professeur, voilà, on n'a pas trop de points, on demande à se rapprocher de chez soi, et puis voilà, Marc Seguin tombe comme ça pourrait être un autre collège. Donc moi c'était un petit peu par hasard. Pourquoi on y reste par contre, c'est pour la diversité des projets, je pense, et des liens humains qu'on y crée. Madame Ogunchi parlait tout à l'heure des projets. C'est vrai que sur tous les établissements que j'ai traversés jusqu'à présent, que ce soit collège ou lycée, dans la vallée du Gier ou à Saint-Étienne, j'ai jamais vu une pépinière de projets aussi riche, aussi dense qu'au collège Marc Seguin. Ça va des projets d'art, comme on peut voir derrière nous, avec une façade décorée par Eli Pitre, quand même, enfin des artistes reconnus à l'international, par des projets de musique. On a derrière nous une scène professionnelle avec une quinzaine d'instruments. Du sport, de l'aéronautique. Hier, on avait une quinzaine d'élèves qui faisaient un parcours avec un cas en grimpant sur les toits du collège. Enfin, il se passe des choses totalement incroyables au collège. Et puis le rapport humain, c'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment, mais on a des contacts très riches entre adultes, évidemment, mais les contacts qu'on établit avec les élèves, ça, je l'ai rencontré nulle part ailleurs.
Alors, Madame Ogunchi, pourquoi autant de projets? Zone d'éducation prioritaire, REP plus, c'était ça. Hein. Ça apporte un peu plus de moyens au niveau de l'académie.
Alors, on a des moyens, mais surtout, j'allais dire, on va les chercher. C'est-à-dire qu'on a des équipes investies qui ont envie de faire des choses, qui ont envie effectivement de proposer de l'art, de proposer du sport à leurs élèves. Et voilà. Donc, on va chercher les budgets pour pouvoir financer tout ça. On a la chance aussi, depuis maintenant un an et demi, d'être dans la cité éducative. Mais
on va en parler. Mais effectivement, c'est le mur d'escalade, par exemple, c'est des sorties, c'est une scène, Monsieur Pangelès le disait, c'est des instruments, ça veut dire qu'on développe aussi, on s'ouvre l'esprit au sein de ce collège-là. Effectivement, on va parler tout de suite de la cité éducative. C'est un nouveau label, c'est une nouvelle dénomination qui permet d'avoir des moyens supplémentaires dans des quartiers désignés comme quartiers prioritaires. Alors c'est au titre de la politique de la ville, mais la cité éducative c'est encore autre chose. Rémi Seux, vous êtes délégué du préfet, bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que c'est que la cité éducative?
Bonjour, merci déjà de m'avoir invité. La cité éducative c'est un label qui a été créé par l'État pour intervenir sur des quartiers politiques de la ville. Et l'idée, elle est assez simple au fond, c'est de permettre à tous les acteurs de l'éducation de faire cité ensemble. Pour tous les enfants de 0 à 25 ans, partant du principe que tout le monde est concerné dans un quartier par l'éducation des enfants, que ce soit le collège, que ce soit les associations, que ce soit les parents, enfin bon voilà. Et là, l'idée de cité éducative, c'est de mettre des moyens supplémentaires à la politique de la ville sur des quartiers spécifiques, afin qu'on ait plus de synergie en fait entre les acteurs et qu'on puisse regarder en fait de près, faire un peu un diagnostic du quartier pour voir quels sont les manques et grâce à ces moyens complémentaires, qu'est-ce qu'on peut mettre en plus pour concourir à l'éducation des enfants.
Alors du coup, il y a l'État, mais il y a également la ville, hein, quand on parle de politique de la ville, Siam Labiche, effectivement, ce nouveau dispositif, ce renforcement des financements politiques de la ville au niveau de Saint-Étienne, qu'est-ce que ça apporte? Quel regard vous avez aussi sur ce renforcement des moyens donnés au quartier et l'ensemble des structures qui le font vivre?
Eh bien, c'est une très très belle opportunité pour aller encore plus loin dans ce qui est fait en matière d'éducation, en ouvrant encore davantage les enfants, les élèves, par l'appui des enseignants, à tout ce qui est artistique et culturel. C'est peut-être ici où on pêche un petit peu, pêcher non pas par rapport à la volonté et l'envie des enseignants, parce qu'on a la chance d'avoir ici une équipe enseignante extrêmement investie, engagée, que ce soit sur le collège Marc Seguin, mais également sur l'ensemble des écoles qui composent le quartier de Montréno. Et ce qui pêchait un petit peu, j'ai envie de dire, c'est peut-être l'aspect financier. On voyait bien que la principale activait un certain nombre de demandes de subventions, que ce soit au département, à la politique de la ville, sans forcément parfois avoir les moyens nécessaires pour pouvoir aller jusqu'au bout des projets extrêmement pertinents qui permettaient vraiment de garantir l'épanouissement de ces élèves. Et avec l'arrivée de la cité éducative, et ça a été un moyen supplémentaire parce que c'est 250 000 euros en plus par an qui vient renforcer ce que la politique de la ville peut faire, ce qui vient renforcer également le financement des autres partenaires. Et ça a contribué, on l'a bien vu, en l'espace d'un an, à construire de véritables projets. Et puis ce que je voulais dire aussi en tant qu'ancien élève, parce que c'est aussi important de le dire, à l'époque, on n'avait pas tous les moyens et les financements que l'on a aujourd'hui. Donc c'est une véritable opportunité sur laquelle il faut capitaliser, d'autant plus D'autant plus qu'il y a, alors moi je suis la génération en dessous peut-être de ceux qui se sont exprimés, mais d'autant plus qu'à l'époque, le quartier de Moreno comptait à peu près 15 000 habitants. Et le collège Marseguin, c'était l'un des plus grands de Saint-Étienne, donc je peux vous dire qu'il y avait de la vie, que ça bouillonnait. Aujourd'hui, bon, on est passé à peu près 300 élèves. On a quand même considéré que c'était extrêmement important de conserver un équipement tel que celui-ci sur un quartier. Et puis, juste dire qu'au-delà de tous les souvenirs qu'aujourd'hui cela éveille, c'est Saint-Quentin avec beaucoup d'émotion et depuis tout à l'heure, je regarde à gauche parce que j'essaye de voir s'il y a des anciens camarades qui arrivent. C'est que malgré les difficultés, parce qu'il faut quand même dire qu'il y avait des vraies difficultés hein, sur le collège Marseguin, on peut pas non plus l'éluder, Kamel l'a très bien dit tout à l'heure, quand on rentrait en classe, quand même moi j'ai des souvenirs où pour faire cours de français, ça commençait pas avant les 30 premières minutes, quand même, parce qu'il fallait aussi faire de la discipline, et qu'on avait des enseignants qui étaient très très engagés, très très investis, et qui savaient pourquoi ils étaient là. Et ce qui a contribué à marcher, qui a fait peut-être aussi qu'on a eu la chance d'avoir une équipe pédagogique très, très stable, qu'aujourd'hui on a la chance de revoir dans différentes manifestations, c'est parce qu'il y avait un pacte entre les enseignants et les parents, qu'on ne retrouvait pas forcément ailleurs et qu'on ne retrouve pas forcément aujourd'hui. Pour un certain nombre de familles, de pères et de mères, notamment les pères, parce que c'était eux qui donnaient l'éducation, l'enseignant était considéré comme sacré. Il était bien plus important que le prêtre d'une église ou que l'imam d'une mosquée. Et qu'il suffisait que un père soit convoqué, parce que c'était souvent le père qui était convoqué au collège Marseguin, pour que ici, en plein milieu de la cour ou dans le bureau du principal, on entende d'abord les mouches voler et puis ensuite les claques arriver. Alors je dis pas que c'était bien hein, de donner des claques, mais il y avait quand même cette confiance et ce pacte qui était construit entre les parents et les enseignants qui faisait que l'enfant savait ce qu'il avait à faire au collège et ce qui fait qu'aujourd'hui, par la difficulté quand même qu'on a rencontrée, ce qui fait qu'aujourd'hui on a beaucoup de jeunes à l'époque, aujourd'hui, qui ont réussi par la difficulté qu'ils ont rencontrée, mais par le fait qu'ils ont été considérés par des équipes enseignantes et par des parents.
Alors être considéré, c'est aussi évoluer dans son quartier. On va revenir à la cité éducative. C'est des thématiques qui vont être développées autour de la parentalité, autour de la création culturelle et artistique. Et ça, on en parlera dans cette émission sur la fresque. Et puis, on va parler aussi de santé physique, psychologique. Bon, c'est des termes qui sont posés comme ça. Cité éducative, combien de dossiers ont été déposés depuis 2022? Qu'est-ce qui est mis en avant au niveau de l'État? Expliquez-nous un peu le déroulé depuis quelques mois.
Ouais, je vais peut-être déjà dire une chose, parce qu'il y a une deuxième cité éducative à Saint-Étienne, enfin qui est en fait la première, qui était celle de Tarentaise-Beaubrun. Et en fait, ça permet de voir les spécificités qui existent sur Moreno. Et peut-être la première chose à dire, c'est qu'en fait, il y a une cohérence à Moreno. On a une vraie cohérence territoriale, puisque c'est quand même un quartier spécifique avec un sentiment d'appartenance fort, ce qui n'est pas toujours vrai dans d'autres quartiers de Saint-Étienne. Et puis on a une autre spécificité sur la cité éducative de Moreno, c'est que tous les enfants de Moreno sont sur la carte scolaire du collège Marc Seguin. Donc ça crée aussi une ambiance, on va dire, un peu particulière sur cette cité éducative et, ce que je disais un peu en préambule, une cohérence forte des différents acteurs. Peut-être dire aussi autre chose sur la cité éducative, c'est qu'un des principes de cette cité, enfin des cités éducatives en général, c'est d'avoir une alliance des acteurs principaux, on va dire, de l'éducation. Donc là, l'État, effectivement, comme l'a dit Madame Labiche, qui met donc 250 000 euros, mais qui investit aussi du temps pour coordonner la cité éducative. L'éducation nationale aussi, qui est présente dans ce qu'on appelle la Troïka, c'est-à-dire les membres qui pilotent la cité éducative, et la ville de Saint-Étienne, qui pour sa part abonde au budget à hauteur de 60 000 euros. Et puis on a aussi, dès le début de la cité éducative de Moreno, la CAF, qui nous fait le plaisir de participer aussi au pilotage, et en abondant également d'un budget de 30 000 euros. Donc pour dire que c'est ça aussi, c'est une alliance un peu des acteurs qui concourent à l'éducation, et ça, faut quand même l'avoir en tête aussi en préambule. Ensuite, sur le nombre de dossiers déposés, alors je sais pas exactement, il doit être à peu près une quinzaine de dossiers déposés. Sur les thématiques, effectivement, on a une grosse thématique culture, pas sur le nombre de projets, mais sur le poids des projets, puisqu'on a la fresque et la épître qui a été un projet quand même d'ampleur sur cette cité éducative. Et puis on a aussi, par exemple, un projet qui a été déposé dans le cadre de Microfolie, pour développer une microfolie à Moreno, ce qui va arriver à la rentrée. Donc c'est des musées numériques en fait. Hein. C'est une banque de données de tous les musées français qui est numérisée et qui sera accessible ici sur le quartier de Moreno, sur le haut là. On a aussi un gros projet en collaboration avec la ville qui est pas évident à mettre en place parce que quand on vient toucher un besoin très spécifique du quartier, c'est qu'il y a un problème. Donc résoudre ce problème, forcément, c'est un peu compliqué. Et qui a un projet en fait autour de l'apprentissage du langage, l'orthophonie, un peu tout ce qui est du paramédical. Pas sur le versant soins, mais sur le versant prévention, pour aider les enseignants, aider les parents, aider les enfants, avant d'en arriver aux soins de l'orthophonie ou de l'orthopsie ou ce genre de soins-là, de pouvoir bien diagnostiquer et déjà être accompagné, puisqu'on sait que c'est des secteurs sur lesquels on a de fortes listes d'attente. Et en plus, voilà, sur le quartier de Moreno, il y a des problèmes qui se posent spécifiques autour de la question de la langue, par exemple. Quand on a des enfants qui sont en situation de bilinguisme, ben, savoir si le problème vient de là à un certain âge ou si on a vraiment des problèmes cognitifs qui posent des difficultés pour apprendre le langage. On a des problèmes aussi d'accès aux orthophonistes en ville à Saint-Étienne, puisque voilà, pour des familles nombreuses, bah, prendre la ligne M9 pour arriver à Carnot, enchaîner un autre bus, juste pour aller à l'orthophoniste pour une séance de 1 heure, qui est souvent sur en plus du temps scolaire. Enfin, voilà, ça pose tout un tas de questions spécifiques parce qu'on est à Moreno. Et là, voilà, on mène vraiment un travail de fond avec la ville de Saint-Étienne pour réussir à créer une sorte de dispositif qui permettent de répondre à ce besoin-là spécifique. C'était pour donner des petits exemples.
Voilà, alors différents projets qui sont accompagnés. C'est considéré sur quelle durée dans le temps, combien d'années finalement?
Alors, au départ, la cité éducative de Moreno, donc, elle a été labellisée lors du comité interministériel des villes du 29 janvier 2022, voilà, avec annonce du Premier ministre Jean Castex à l'époque. Elle a été labellisée pour 3 ans. Et on a eu une annonce ministérielle, alors je ne sais plus, du début de l'année, me semble-t-il, voilà, qui proroge toutes les cités éducatives jusqu'en 2027 avec les financements complémentaires. Voilà, donc les financements État, donc de 250 000 euros, sont existants jusqu'en 2027.
Et ces projets-là vont tous évoluer sur cette durée ou vous essayez aussi d'appeler au renouvellement d'initiatives?
Ben, ça, c'est toujours la grosse question de la politique de la ville, quoi. Faut-il renouveler ou alors est-ce que c'est un signe de bonne santé ou alors est-ce qu'il faut garder? Moi, je crois que la vraie question, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que ça répond à un besoin? Et c'est cette vigilance-là qu'il faut qu'on ait au quotidien, de se dire, OK, est-ce que l'action, on la refait parce qu'on la refait un peu comme ça, bêtement, et ça n'a pas trop d'intérêt? Ou est-ce qu'elle répond toujours à un besoin, auquel cas, ben, il y a intérêt à la poursuivre? Par contre, à aller chercher dans d'autres dispositifs, sur ce qu'on parlait avant, autour, par exemple, un peu de prévention en orthophonie, en santé, ben, évidemment que ce qu'on se disait d'ailleurs pas plus tard qu'hier, il va falloir que dès le début on soit en lien aussi avec l'ARS par exemple, pour que cette action elle puisse être montée par Cité Éducative, financée en préambule par Cité Éducative et pourquoi pas après financée par d'autres dispositifs, ce qui permettrait au fond Cité Éducative après d'aller financer d'autres choses, quoi, et de rester un peu alerte.
Alors les projets culturels sont aussi financés et accompagnés et on en a un bel exemple avec cette fresque là qui va être inaugurée d'ici quelques minutes maintenant. Madame Ogunchi, ça c'est du réel, hein. On l'a. On passe devant le collège, on peut pas passer à côté de ça. Le fait de marquer les 50 ans avec une œuvre de cette ampleur-là, vous vous dites quoi aujourd'hui ?
Je me dis que c'est remarquable. L'idée, je crois que l'idée initiale, c'était celle-là, d'un collège, j'allais dire banal, construit dans les années 73, sans marqueur architectural, en faire un établissement qu'on connaît, qu'on reconnaît. J'avais envie que finalement toute la dynamique qu'il peut y avoir à l'intérieur de l'établissement se voit à l'extérieur. Alors on a commencé par des petites choses, hein, aménager les abords, mettre des terrains de foot, des terrains de basket, permettre aux enfants de jouer pendant ces temps de récréation. Parce que moi je pense qu'entre 11 et 14 ans c'est encore important d'avoir des moments de jeu. Voilà. Et puis ensuite, l'arrivée de la cité éducative nous a permis de faire un projet de plus grande ampleur. Et puis là, voilà, avec des artistes reconnus.
Alors, et la épître, effectivement, deux œuvres, une œuvre éphémère au sol, et puis celle qui va rester dans le temps, c'est cette œuvre murale. On a des élèves qui ont participé. On a aussi la professeure d'art plastique, Madame Rimbert. Hein. La genèse de ce projet-là, vous êtes investie dans ce collège-là. Faire venir et la épître. Expliquez-nous votre rôle là-dedans et puis comment on a partagé ce temps-là avec ces artistes et les élèves et vous.
Alors mon rôle, il n'est pas non plus exorbitant. Là, Epic, je les connais. Ouais. J'ai travaillé avec eux au sein du collège il y a une dizaine d'années. Ils étaient beaucoup moins connus que...
Oui, alors Ella Epic, effectivement.
Voilà, qu'à l'heure actuelle. On a déjà formalisé donc un projet. Et puis, quand les cités éducatives sont arrivées, bah, tout de suite, voilà, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais il faut marquer le coup. Il faut que Ella et Pitre reviennent. Voilà, donc on a eu des parlementations. Parce que, pareil, ils sont très, très occupés. Ils ont des chantiers un petit peu partout dans le monde. Et puis ils ont accepté, hein, parce qu'ils sont aussi, je crois, attachés au collège. Voilà, ils connaissent parfaitement bien nos élèves et ils aiment venir discuter, se baigner un petit peu dans l'ambiance du lieu.
Alors, on a deux élèves à côté de nous dans cette table ronde. Vous allez vous présenter. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, je m'appelle Abdelah Eli, je suis un troisième au collège Marc Seguin.
Enchanté.
Bonjour, je m'appelle Walid, je suis un cinquième au collège Marc Seguin.
Alors, Ella et Pitre, vous les avez rencontrés au début, hein, on n'a pas commencé directement à monter sur des échafaudages et peindre. Quelles ont été les premières rencontres avec ces artistes-là, les premières discussions que vous avez eues avec eux, ils se sont présentés comment à vous ?
Les premières rencontres qu'on aura fait avec eux, on s'en souvient très bien, ça aura été durant la salle d'art plastique. Ils se sont présentés et ils nous ont montré ce qu'ils ont fait. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié. La plupart de mes camarades aussi ont apprécié cela. Ensuite, on nous a proposé plusieurs idées de ce qu'ils pouvaient potentiellement faire, de ce qu'ils pouvaient potentiellement peindre. Les avions ont été mitigés, mais c'est cette idée-là qui aura gagné et elle plaît la plupart d'ici, que ce soit professeur ou élève. C'est quelque chose qui nous a mis à cœur parce qu'on aura aussi pu participer. On aura aidé à peindre, enfin à faire des dessins sur le sol, vers les dessins qui sont là-bas, ouais. Sur le gâteau qui est représenté au sol. Et c'est quelque chose qu'on aura apprécié. On aura pu faire ça pendant certaines heures de cours. Et c'était un projet qui était formidable. Et on remercie Madame Ogunchi de pouvoir nous avoir fait ce plaisir-là.
Eh bien, ça, c'est bien présenté, c'est très beau. Eh bien, on est à la radio, donc le problème de la radio, c'est qu'on n'a pas l'image. Qu'est-ce que ça représente ?
Bah, ça représente des formes de visage qui se cachent derrière sa personnalité. Ça veut représenter qu'on peut être joyeux, mais derrière, on peut être pas très content. Ça a beaucoup d'originalité, ça a beaucoup de couleurs. Ça, c'est très beau et... Il y a beaucoup de têtes, enfin, il y a trois têtes de chacun de masques. Chacun tête a son masque et sa personnalité et son goût et aussi son humeur.
Alors, le travail artistique avec les artistes, vous êtes engagé comment en fait ? Est-ce que Eli Pitre vous ont donné des techniques ? Peut-être aussi les points de vue, se reculer pour regarder la fresque. D'un point de vue de la réalisation, quel était ton rôle par exemple ?
À un moment, en salle d'art plastique, eh bien, on nous aura mis dans la récréation, et on nous aura demandé d'essayer de représenter, de refaire cette fresque, et on s'est rendu compte qu'il y avait un gros travail qui était fait derrière, que ce soit en termes de proportions ou de couleurs, c'est quelque chose qui n'a pas été facile à réaliser. Personnellement, je m'en sors assez bien en dessin, donc ça a pu faire quelque chose. J'ai aussi eu un travail personnel à réaliser. J'ai fait une fresque pour Ella et Pitre, pour qu'ils aient potentiellement exposé quelque part. Si je peux en parler, c'est une espèce de crevette qu'ils m'ont demandé de faire, que j'avais fait sur mes carnets de dessin. C'était écrit « La vie doit être simple quand on est une crevette », parce que c'est simple quand t'es une crevette. Et du coup, bah, j'aurais fait ce dessin sur à peu près les proportions d'une affiche dans un métro. Et c'est quelque chose qui m'a mis beaucoup de temps à réaliser, du deuxième jusqu'à j'ai pu terminer seulement hier, ce qui m'a mis énormément de temps. Et j'ai beaucoup aimé faire cela, en tout cas.
Et ben voilà, donc ça renforce les vocations aussi, c'est ça, hein, ces projets artistiques. Madame Rimbert, vous, le regard d'accompagnatrice, d'éducatrice dans ce projet-là, à l'inauguration de cette fresque-là, quel est votre sentiment ?
Alors moi, je suis force de proposition et moi, quand je vois l'enthousiasme de mes élèves, chacun prend une petite graine de ce projet et il l'emporte loin puisque Abdallah est un artiste, entre guillemets, et je sais qu'il va l'emporter loin, sa petite graine. Et ça, ça me fait chaud au cœur, en fait, parce qu'on les lâche pas comme ça. On les lâche avec une richesse culturelle, une richesse intellectuelle, une richesse de pensée. dont ils auront besoin dans leur vie de futurs adultes.
Alors, et c'est vrai que le début de cette émission, en direct, je le rappelle, hein, sur Radio Onden et sur Radio Audio, on avait les anciens élèves qui disaient que c'était l'endroit où ils ont commencé à se construire. Et on en vient avec la nouvelle génération, et vous dites à peu près la même chose, c'est que finalement, participer à un projet tel que celui-ci, Abdallah qui s'investit, ça veut dire que finalement, ce collège-là et ces années collège vont marquer et seront un ancrage pour la vie future. Alors, Madame Ogunchi, principale, peut-être là aussi, entendre des élèves s'exprimer ainsi sur quelque chose qu'ils ont fait avec cœur, j'imagine que ça doit être bien pour vous.
C'est tout le sens de notre démarche, c'est une grande joie. Là, on fête les 50 ans, j'allais dire, on fait finalement un point d'étape. Mais l'idée, c'est les projections sur l'année d'après et on a déjà un certain nombre de perspectives. Alors, ça ne sera pas Ella Epitre l'an prochain, mais on a un autre projet artistique d'ampleur. On va continuer tout le travail de liaison avec les écoles de secteur à qui on permet tout le temps de faire de l'escalade, de venir faire de la robotique au collège. On a une belle infrastructure, on essaye d'en profiter, mais j'allais dire de l'âge de 3 à 14 ans. Ceci étant, on ne s'arrête pas non plus à 14 ans. On travaille aussi avec nos anciens élèves. Quand ils sont un petit peu en difficulté au lycée, ça arrive. Ils reviennent nous voir. On a un collège, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais qui est quand même ouvert tous les soirs jusqu'à 18h, qui est ouvert quasiment tous les mercredis après-midi, qui est ouvert pendant les vacances scolaires parce qu'on propose beaucoup d'activités, que ce soit artistique, du soutien scolaire. Ils viennent faire des maths pendant les vacances. Je tiens à le dire.
Ils sont fous. Ouais, ils vont aller avec l'équipe des anciens élèves en colle aussi, volontairement le samedi matin.
Non, ça à l'école, on les réserve de 17 à 18, pas de souci.
Voilà. Eh ben effectivement, c'est beaucoup de projets. Alors, on va rappeler aussi avec Monsieur Panjolès ici, il y a eu cette radio Plein Ciel qui était aussi en activité et qui faisait le lien entre les écoles du quartier, le collège où beaucoup de gens et beaucoup d'enfants se sont succédés au micro. Ça aussi, c'est une expérience assez particulière et qui date depuis quelques années.
Eh ben oui, vu qu'on fête nos 10 ans, si je dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, je dis merci aux grands frères Radio Dio et Radio Onden qui nous ont épaulés dans ce projet il y a donc 10 ans. Moi, j'ai fait mes premières armes à Radio Dio. C'est ça qui m'a donné l'idée de monter des radios scolaires, une première à Rouen et la deuxième à Moreno. Et c'est vrai qu'elle nous a été très utile pour créer du lien, en particulier pendant le Covid, par exemple, parce qu'on pourra pas citer tous les projets. Ça prendra trop de temps. Mais il y a un projet que j'avais trouvé très beau, très joli pendant le Covid, où évidemment plus personne ne pouvait se voir et où on ne pouvait pas accueillir les écoles primaires pour leur faire visiter le collège, et on avait fait une espèce de pont aérien via cette web radio, Radio Plein Ciel, du nom de la célèbre tour de Moreno. Donc on était allé capter des questions dans les écoles primaires, donc de jeunes élèves, qu'ils avaient posées via la web radio à leurs grands frères, grandes sœurs du collège Marc Seguin, qui leur avaient répondu. Enfin, on avait fait une espèce de vrai travail de réseau pour garder le contact pendant cette période compliquée grâce à l'outil web radio.
Eh ben voilà, ce sont des initiatives qui sont remarquables et qu'effectivement sur Radio Onden, même sur Radio Dio, on a fait aussi écho de cette radio Plein Ciel en proposant la rediffusion de certains de programmes que vous avez réalisés. On va arriver au terme de cette émission, de cette table ronde, toujours dans ce projet-là que nous menons, qui s'appelle Parole de Citoyen, Radio Citoyenne. Alors, on va annoncer les festivités. Qu'est-ce qui se passe? Alors, concert, inauguration, la fête toute la journée. Expliquez-nous un peu le programme de ce 17 juin.
Oui, alors donc on est effectivement sur une journée festive, donc on va il y aura beaucoup de musique aujourd'hui. Je pense que ça va être au cœur des choses, d'abord parce que on a beaucoup d'élèves qui ont préparé la mêlée des cœurs avec France Rugby 2024, c'est ça? Voilà, et donc ils vont venir nous chanter les hymnes internationaux. On a également une chorale qui est plus traditionnelle, et puis ensuite on va avoir nos rockers avec la classe orchestre, voilà, et un certain nombre de démonstrations. On verra aussi nos projets plus sportifs avec le projet parcours. Donc là, une fois de plus, je vais essayer de me calmer parce que tous mes élèves sautent partout sur les toits, voilà. Mais effectivement, voilà.
Est-ce qu'on aura de le dire en direct ça, à la radio ? C'est pas certain, les parents ils vont pas être contents là.
Alors, les parents ont donné leur autorisation ? Non, c'est un beau projet sportif. On a été, cette année, ils ont été encadrés par une équipe de circassiens. Et on est entre un projet artistique et sportif. Et moi, je trouve que c'est une très belle démonstration de ce qui peut être fait avec nos petits élèves, de leur implication. Voilà, les voir tomber des toits et rattrapés par les autres, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire.
C'est aussi, on en parlait à la préparation de cette émission, c'est plus de 900 inscriptions, c'est énorme pour les personnes qui vont passer ici tout au long de cette journée-là.
Les effectifs ont augmenté, hein, on est à 1200 personnes attendues normalement. Voilà, nous espérons avoir suffisamment de merguez.
Bon, Madame Labiche, donc ancienne élève, aujourd'hui à la ville de Saint-Étienne, avec tout ce qui s'est dit aujourd'hui, bon, ça va être une bonne journée aussi pour vous.
Ah oui. Ah bah alors en perspective, c'est une très très belle journée. Hein. On attendait cette journée avec impatience. Toutes les personnes qui vont venir aujourd'hui, surtout ce qu'elles vont rechercher au-delà des souvenirs et des anciennes photos, où elles vont essayer de les cacher pour oublier à quoi elles ressemblaient. C'est surtout de pouvoir retrouver celles et ceux avec qui ils ont pu passer un temps de leur scolarité, savoir ce qu'ils sont devenus. Et puis surtout, c'est ce qu'on espère. En tout cas, pour ma part, c'est aussi pour ça que je suis revenue aujourd'hui. C'est de pouvoir revoir des profs qui nous ont tant donné. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de noms. Alors, j'en avais revu, hein, parce qu'aujourd'hui, je suis enseignante aussi, hein, parce que ces enseignants m'ont donné l'envie d'être enseignant. Et je me souviens que le jour de mon jury pour être enseignant, je suis tombée face à un ancien prof qui était donc Monsieur Arnal. Et donc, j'ai un petit peu perdu mes moyens, mais j'ai eu la chance. Alors, c'était pas le seul, hein, et j'ai eu la chance d'avoir une bonne note et qui m'a permis après derrière d'être enseignant. Donc, on espère vraiment tous les anciens élèves qui vont venir aujourd'hui revoir des anciens profs pour leur dire merci.
Alors effectivement, c'est une journée sur le thème de la retrouvaille, de la découverte avec cette fresque-là qui va être inaugurée. Le partage d'expériences entre anciens élèves, nouveaux, élèves actuels. J'espère que durant cette émission, on a pu faire un peu un petit panorama de ce qu'est le collège Marc Seguin. On va remercier tout le monde. On remercie Michel, maman de Jordi, Kamel, Akima, Nicolas, Rémi Seux pour la préfecture. On va remercier Monsieur Pangelès, Madame Rabert, Madame Labiche, Madame Ogunchi. On va remercier ces élèves qui ont pris la parole. Alors vous allez peut-être terminer. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette journée ?
Bah, de la musique, de la joie, retrouver ses camarades et s'amuser et après profiter de la journée et puis rentrer chez soi et se reposer et que ça se passe bien.
Et ben voilà. Bon, et ben on va peut-être terminer là-dessus. Merci à tous d'avoir participé. Jordi, un petit dernier mot.
Je vais dire un petit dernier mot, ce ne sera pas une conclusion, mais c'était mon ressenti par rapport à ce débat qu'il y a eu, enfin pas ce débat, mais cette prise de parole. C'est que je suis agréablement surpris de ce qui se fait aujourd'hui dans ce collège, parce que je trouve que c'est à la hauteur de ce qui se faisait avant, l'implication des professeurs et de tous les adultes, on va dire, qui... Et c'est surprenant, et ce que je trouve important à dire quand même, c'est que là, c'est quand même un quartier populaire, Moreno. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que tout le monde n'a pas sa chance dans ces quartiers-là. Et je trouve que d'avoir cet environnement, ça donne la chance à des gamins de s'en sortir et d'aller plus loin dans la vie. Et c'est super important, quoi, parce que dans les classes populaires, on n'a pas cette chance-là. Surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, très individualiste, c'est vraiment important. Voilà. Je voulais parler de ça, quoi.
Eh ben, merci Jordi pour cette conclusion. On va rendre l'antenne, on va retrouver notre programmation habituelle sur Radio Dio 89.5 et également sur Radio Ondaine 90.9. On va remercier Patricia aussi qui est à la technique pour envoyer ces émissions en direct. Merci à tous, à bientôt. On fêtera les 51 ans l'année prochaine, on revient tous les ans, c'est ça ? Merci à tous et bonne journée.